astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Titan est un monde océanique sous une croûte de glace et à l'atmosphère dense, où la photochimie produit des molécules organiques complexes qui tombent à la surface. Une question importante est de savoir si ce matériau peut se mélanger à l'eau de l'océan et former des molécules d'intérêt biologique. Une équipe de chercheurs a étudié l'effet des gros impacts qui chauffent la subsurface de Titan et créent des bassins d'eau liquide. Ils publient leur étude dans Journal of Geophysical Research, Planets. Titan, c'est la plus grande lune de Saturne. Il abrite un profond océan d'eau liquide sous sa coquille de glace. La présence d'un tel océan a été déduite de deux observations. Premièrement, l'obliquité mesurait de 0,3 degrés et environ 3 fois plus grande que la valeur attendue pour un Titan entièrement solide. Ce qui a été interprété comme indiquant la présence d'un océan liquide interne. Et deuxièmement, la sonde Cassini a pu déterminer les variations de la gravité. Et il se trouve que la composante du champ de gravité de degré 2, qui est due aux forces de marée pendant l'orbite excentrique de Titan autour de Saturne, s'est avérée très importante. Et ça s'explique par un découplage entre une enveloppe de glace externe et l'intérieur liquide. Mais la profondeur de cet océan et l'épaisseur de la croûte de glace ne sont pas bien contraintes. Titan possède aussi des éléments organiques, comme du carbone, de l'azote, etc., en abondance. C'est la seule lune du système solaire qui est connue pour avoir une atmosphère dense, composée principalement d'azote et de quelques pourcents de méthane. Les molécules organiques s'y forment par photochimie de ces deux composés. La mission Cassini ainsi que les observations terrestres ont permis d'identifier plus de 20 molécules organiques différentes dans la haute atmosphère de Titan. En 2017, Hurst et collaborateurs avaient également montré qu'un flux d'oxygène et de OH en provenance d'Encelade pouvait également fournir de l'oxygène à Titan. Alors les analogues en laboratoire des molécules organiques de Titan sont composés de milliers de molécules organiques différentes, dont des hydrocarbures polyaromatiques. Certaines de ces molécules représentent des éléments constitutifs de la vie telle qu'on la connaît, tandis que d'autres pourraient fournir l'énergie nécessaire à des organismes simples. Mais la température de 94 Kelvin à la surface de Titan étant beaucoup trop basse pour que la vie puisse s'y développer, ces substances organiques devraient être transportées vers des conditions plus favorables, telles que celles qui existent dans les réservoirs souterrains d'eau liquide. L'un des moyens de transférer les matériaux de surface riches en carbone vers l'intérieur de Titan, c'est l'impact météoritique. Comparé à Ganymède et Callisto, il y a peu de cratères d'impact à la surface de Titan. Hetchpet et collaborateurs n'ont identifié en 2020 que 90 cratères d'impact potentiels d'un diamètre compris entre 4 et 500 km sur les images du radar à synthèse d'ouverture de Cassini, qui couvre environ 70% de sa surface. La surface de Titan est donc considérée comme géologiquement jeune, avec un âge compris entre 200 et 1000 méganées. Selon Crosta et collaborateurs, dans leur étude de 2021, l'impact qui a créé le plus grand cratère de Titan, qui est nommé Minerva, pourrait avoir ouvert une brèche dans l'enveloppe de glace de Titan, apportant à l'océan des matériaux de surface riches en matière organique. Des impacteurs plus petits ne suffiraient pas à briser l'enveloppe de glace de Titan, mais ils communiqueraient suffisamment d'énergie pour faire fondre une fraction de la croûte de glace. Ces environnements sont des cibles astrobiologiques intéressantes, car ils présentent un environnement où des molécules biologiques, telles que les acides aminés, peuvent se former. Et c'est pour cette raison que l'un de ces cratères, le cratère Selk, avait été choisi par la NASA comme cible de la quatrième mission New Frontiers, le fameux Dragonfly. Dans une récente étude de 2022, Carnahan et collaborateurs ont par ailleurs montré que sur Europe, donc autour de Jupiter, les bassins de fusion des impacts pouvaient s'enfoncer dans la croûte de glace, car l'eau est simplement plus dense que la glace. Alors Klára Kaluzová de l'université Charles à Prague et ses collaborateurs cherchent donc aujourd'hui à savoir si les bassins de fusion pourraient s'enfoncer de la même manière dans la croûte de glace de Titan. En raison de l'efficacité du chauffage par les marées, Europe devrait avoir une couche de glace plus fine et un intérieur plus chaud que Titan, si on considère une coquille de glace pure. Mais les chercheurs rappellent que les clatrates de méthane sont stables dans les conditions de surface de Titan, et ils peuvent donc former une couche externe de quelques kilomètres d'épaisseur. En raison de leur très faible conductivité thermique, environ un ordre de grandeur inférieur à celui de la glace à la température de surface de Titan, la présence de clatrates se traduit donc par des gradients de température élevés, et ce fort gradient thermique, à son tour, réduit l'épaisseur de la croûte de glace par rapport au cas sans clatrate, ce qui pourrait favoriser donc l'enfoncement d'un bassin de fonte souterrain, puisque le matériau de fonte est alors inclus dans de la glace plus chaude et moins visqueuse. Kaluzová et ses collaborateurs ont effectué un total de 18 simulations numériques à l'aide d'un modèle qui résout le problème de la convection thermique diphasique d'un mélange de glace solide et d'eau liquide, en faisant varier plusieurs paramètres. Le diamètre de l'impact, avec des valeurs de 3, 3,5 et 4 km. L'épaisseur de la couche de clatrate, 0, 5, 10 et 15 km. La taille des grains, 0,5, 1 et 2 mm. La porosité de surface, entre 0, 10 et 20%. Et l'amplitude du réchauffement dû à la marée, 0 ou 5, 10, moins 8 watts par mètre cube. Kaluzová et ses collaborateurs montrent que la couche isolante de clatrate pourrait faciliter le transfert de matière, y compris les matières organiques de surface, à travers la croûte de glace de Titan. Les planétologues démontrent qu'il existe en fait deux comportements différents. Dans les cas où peu de liquide est produit par l'impact, le bassin de fonte souterrain reste proche de la surface et regèle sur des échelles de temps de moins de 25 000 ans. Et dans le cas où les plus grands volumes de fonte sont produits, un transport de matière fondue vers le bas se produit. Et en descendant, une partie de la matière en fusion gèle, mais une partie peut atteindre l'océan sous-jacent dans certaines conditions, et ça en quelques milliers d'années. Les chercheurs montrent que les impacts verticaux, la porosité élevée de la surface, la faible viscosité et le réchauffement dû aux marées favorisent grandement ce transport de surface vers l'océan. Les planétologues confirment que la couche de clatrate affecte de manière significative la distribution de la matière fondue générée, qui régit ensuite l'évolution du bassin de fusion. Les résultats montrent que dans le cas d'une couche de clatrate mince, 5 km, voire absente, la distribution de la matière fondue est très faible ou absente. Le bassin de fusion gèle dans la croûte en peu de temps, en moins de 12 000 ans pour un diamètre de 3 km, en moins de 16 000 ans pour un diamètre de 3,5 km et en moins de 22 000 ans pour un diamètre de 4 km. Pour les couches de clatrate plus épaisses, par contre, 10 ou 15 km, une fonte profonde est générée qui peut être transportée à travers la coquille de glace. Les chercheurs précisent que les profondeurs de fonte qu'ils obtiennent doivent être considérés comme des limites supérieures, puisqu'ils ont supposé que les impacts étaient uniquement verticaux. Dans la plupart des cas étudiés, la matière fondue gèle sans atteindre l'interface océanique. Mais dans certains cas, il y a contact avec l'océan. Selon Kaluzova et ses collaborateurs, l'échange entre la surface et l'océan ne se produit que pour une épaisseur de clatrate de 10 km et le diamètre de cratère le plus grand simulé, 4 km. Et ces paramètres doivent être combinés avec trois cas particuliers. Premièrement, une faible viscosité. Deuxièmement, une grande porosité de surface. Ou bien un réchauffement dû au marais. L'équipe de Clara Kaluzova a utilisé les caractéristiques de la région du cratère Selk, qui est le 8e plus grand cratère de Titan. Leurs résultats indiquent donc que seuls quelques cratères d'impact sur Titan pourraient conduire au transport de matière organique de surface vers l'océan profond, ce qui limite fortement son potentiel d'habitabilité. L'article de Clara Kaluzova et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research Planets, le numéro 129, daté de février 2024. Il porte le titre « L'évolution des bassins de fusion d'impact sur Titan ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut!